On va commencer à lire un texte un peu long dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Épître aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul, hein, c'est pas moi qui parle là, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce conformément à notre foi commune. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors le texte commence, on a lu, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Dans d'autres versions, « Je vous invite donc à cause de cette immense bonté de Dieu. » Ou alors, puisque Dieu a manifesté sa bonté envers nous, voilà. Or, tout ce qui vient après, les exhortations, les recommandations de Paul dans ce chapitre-là, sont les conséquences de tout ce qu'il a développé dans les chapitres précédents. Et ces chapitres de Romains nous disent que l'immense amour de Dieu se démontre en ce que Jésus-Christ est mort pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, pour enlever toute la condamnation qui pesait sur nous et pour nous faire vivre selon l'Esprit. Ce que Paul veut nous rappeler là, c'est que si on doit mettre en pratique tout ce qu'il dit dans ce chapitre, ce n'est pas pour mériter le pardon de Dieu. C'est parce que nous avons eu le pardon de Dieu. parce qu'il nous a pardonné de façon complètement imméritée. Et cela, pour l'apôtre Paul, entraîne une suite logique et raisonnable. Nous offrir nous-mêmes à Dieu en sacrifice vivant, dit l'apôtre. Sacrifice vivant. C'est pas un peu un paradoxe tout ça ? Le sacrifice, c'était un phénomène religieux à peu près universel. Au moment où l'apôtre écrivait, les Grecs, les Romains, les Gaulois et bien d'autres adoraient leur Dieu en offrant un animal en sacrifice, un coq, un bœuf, un cheval, un cochon. Les Juifs aussi pratiquaient le sacrifice des animaux. Et là, c'était selon des règles extrêmement strictes, extrêmement précises, qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices, ces dons faits à Dieu, soulignent qu'il y a une distance entre l'homme et la divinité, et que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu les mains vides. Pour s'approcher de Dieu, Dieu, il doit tout d'abord montrer son respect, sa soumission. Et dans la religion israélite, le sacrifice dit de plus que l'homme doit être purifié, purifié de ses péchés, et que seul le don d'une vie peut le faire. Et voilà que dans ce texte, Paul prend cette coutume que tout le monde pouvait comprendre. Il nous dit que notre réponse à l'amour de Dieu, c'est de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Nous-mêmes. Aucun animal ne nous remplace, aucun prêtre, aucun parent ne le fait à notre place. Nous nous offrons nous-mêmes. Mais dans ce sacrifice, on ne s'immole pas, c'est un sacrifice vivant. Alors si on ne s'immole pas, on s'offre à Dieu de façon tout aussi complète et irrévocable. Et c'est là le véritable culte que nous offrons à Dieu, le culte raisonnable. Raisonnable, le mot grec c'est logikos, logikos, logique, voilà. Il est traduit par raisonnable ici. Dans d'autres versions, c'est par logique, par spirituel, par conforme à la parole. Alors notre culte du dimanche fait certainement partie de ce culte raisonnable. Mais pas que le culte du dimanche, le reste du dimanche aussi, le reste de la semaine, le reste de notre vie. Ce culte raisonnable, c'est le don de soi, le don total. Et pour ma part, je trouve que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais cependant, l'apôtre Paul nous dit qu'avec quelque chose de moins que ce don total, on n'est pas en phase avec l'immensité de l'amour de Dieu, avec l'immensité de ce qu'il a fait pour nous. Alors on pourrait se dire que cela relève un peu du fanatisme. On pourrait penser à certaines pratiques du Moyen-Âge ou, plus proche de nous, au fondamentalisme islamique. Mais on peut remarquer que Paul ne parle pas de fanatisme. Il n'en veut pas. Il parle de sacrifice vivant, il ne parle pas de kamikaze. Il parle du culte raisonnable, logique, selon la parole de Dieu. Il parle de renouveler son intelligence, pas de la débrancher. Il parle de discernement. Et puis il donne toutes sortes d'exemples de ce que ce sacrifice vivant implique. Des exemples dans la vie d'Église, et puis des exemples dans la vie tout court. Alors, dans un premier temps, l'apôtre nous engage à trouver notre juste place dans l'Église. Et pour ce faire, il nous dit d'éviter deux pièges. Le premier, c'est d'avoir de soi-même une trop haute opinion. Se croire important, de vouloir prendre de la place. L'Église est un petit univers où quelqu'un peut vouloir prendre le pouvoir, se valoriser, s'imposer. Ce n'est pas une attitude raisonnable pour un enfant de Dieu. En effet, Paul nous rappelle que l'Église est comme un corps avec différentes fonctions, différents organes, différents membres, que tous dépendent les uns des autres et chacun doit trouver sa place. Celle qui correspond au don que Dieu lui a donné. Et chacun doit servir avec ses dons dans la simplicité, dans l'humilité. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas de place pour l'orgueil, pour l'ambition. Puis le deuxième piège, qui est peut-être plus courant encore, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur », dit Paul. Alors ce deuxième piège consiste certainement à se sous-estimer, à ne pas occuper la place que Dieu veut nous donner, par crainte, par paresse, par manque d'expérience, peut-être aussi par manque de communication avec les responsables. Afin de nous aider à trouver notre juste place, Paul fait une liste des dons à mettre en œuvre dans l'Église. Bon, dans la Bible, il y a bien d'autres listes, et si on les mettait ensemble, on en trouverait bien une vingtaine de ces dons. Ça veut dire tout ça qu'aucune de ces listes est exhaustive. Ces échantillons ne sont que des exemples. À nous d'en trouver d'autres, donc. Alors, qu'est-ce qu'il mentionne comme don dans ce chapitre? Il y en a qui concernent la prédication, l'enseignement, l'encouragement, dit autrement la prise de parole dans l'Église, dans les petits groupes ou dans l'Église tout entière. Il faut que ce soit fait selon la foi, dit le verset 6. Selon la foi, c'est-à-dire conformément à ce que dit la parole de Dieu. Mais au-delà de ça, il faut que ceux qui parlent soient capables de parler à bon escient et qu'ils en fassent profiter les autres. Alors je crois que dans l'Église, ici, de la rue Sonnera, les responsables essayent de discerner ceux qui ont ces possibilités, qui en ont le potentiel, et puis de les former aussi. Bon, bien sûr, ça peut comporter des risques, tout ça. Mais ne rien faire compromet l'avenir et affaiblit même le présent. Alors, après ces dons de parole, il y a aussi les dons qui sont en rapport avec la générosité, le fait d'aider les autres. Parole vivante traduit le verset 8 un peu différemment. Il dit « Un autre s'est exhorté et consolé, qu'il prenne soin de ceux qui lui sont confiés, et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul, ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. » Tout le monde est appelé à servir, à donner, à aider les autres. Mais l'apôtre parle ici des gens qui ont pour cela un talent particulier, qui y trouvent aussi leur épanouissement et qui sont appréciés pour cela. Beaucoup de choses se font au niveau individuel. Mais si vous pensez que vous pouvez en faire plus, que l'Église peut faire plus, parlez-en aux anciens, aux responsables. Ils veulent nous aider chacun à mieux servir Dieu avec le ministère qu'il nous a donné à chacun. Et puis dans cette liste de dons, il y a un don qui n'est ni prise de parole, ni générosité. Les traductions anciennes parlent de présider. Ça n'a rien à voir avec la présidence du culte ou d'une assemblée générale quelconque. Les nouvelles traductions parlent plus souvent de diriger, que celui qui dirige le fasse avec soin. Alors, aujourd'hui, on dirait celui qui a l'aptitude au leadership. Alors, celui qui a ce don, en tant que chrétien, il ne va pas s'imposer aux autres comme s'imposerait un dictateur. Il va inspirer les autres, être un modèle pour eux. Il sera à leur service pour que eux puissent s'organiser et servir Dieu au mieux. Là encore, l'Église a besoin de leaders. Des leaders pour les jeunes, dans les groupes de quartier. L'Église de France en a besoin. Et si tel est votre don, l'Église sonnera en a besoin. Mais pas que l'Église sonnera, l'Église avec un grand E. Quand on s'offre à Dieu comme sacrifice vivant, on s'offre pour le servir et alors on trouve notre juste place dans l'Église pour parler, pour servir ou pour être leader. Alors dans le chapitre 12, il reste encore, je pense, le plus important. Le plus important de ce que Paul veut nous dire. C'est la qualité de notre vie, dans notre vie quotidienne. La qualité de la vie, pour nos contemporains, c'est le nombre de jours de congé, l'absence de pollution, l'accès à la culture, aux espaces verts, le niveau de salaire, la sécurité dans la ville, puis on pourra en trouver bien d'autres. Ce n'est pas de cela que Paul veut nous parler. Paul veut nous dire que quand nous nous offrons à Dieu, quelque chose change ou doit changer dans nos attitudes, dans notre caractère, dans notre comportement. Pour ma part, j'ai compté 27 expressions qui disent ce que nous devons faire ou ne pas faire dans ce chapitre. C'est impressionnant. Alors, on peut les résumer en deux idées. Les deux idées du verset 9, la sincérité dans l'amour et l'attachement au bien. Et je pense que c'est encore plus important que de trouver sa juste place dans l'Église. Imaginez-vous un prédicateur génial, mais qui a des relations pénibles avec les gens. Ou un leader dynamique, mais pas tout à fait honnête. Ou quelqu'un qui aide les pauvres tout en les méprisant. Imaginez encore le plus doué des musiciens qui aurait du mépris pour les autres. Le responsable à la moralité douteuse. La qualité de notre vie est plus importante encore que nos dons et notre service. Quand l'apôtre Paul fait la liste des qualités demandées aux anciens ou aux diacres, la plupart de ces qualités sont celles que tout chrétien devrait montrer. Pas violent, mari d'une seule femme, pas attaché à l'argent, pas ivrogne, et j'en passe. La qualité de notre vie est plus importante que nos dons et notre service. Alors laissons-nous maintenant interpeller par la liste des 27 expressions que je vais énumérer. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Faites passer les autres avant vous. Soyez actifs et non paresseux. Soyez fervents d'esprit. Soyez de bons serviteurs du Seigneur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Tenez le coup dans la détresse. Persévérez dans la prière. Soyez solidaires des frères et sœurs dans le besoin. Exercez l'hospitalité. Ne maudissez pas vos ennemis. Bénissez-les. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Alors, être renouvelé dans son intelligence, s'offrir à Dieu en sacrifice vivant, c'est tout cela, nous dit l'apôtre Paul. Tout. Et tout ça à cause de l'immensité de l'amour que Dieu a eu pour nous. Parce que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Parce que pour nous, il n'y a plus aucune condamnation. Alors si nous aimons, c'est parce que Christ nous a aimés le premier. Alors pour finir, je vais juste vous laisser un verset pour cette semaine, puis pour les autres semaines. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen.